Bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute d'Europe 1, il est 19h.
C'est un soulagement parce que ça fait depuis avant les vacances d'octobre qu'on n'est pas revenu à la fac, ça fait du bien.
De premiers retours timides sur les campus ce lundi pour les étudiants de première année. Ils n'étaient pas nombreux, mais pour ceux qui étaient là, c'était un sacré soulagement.
Reconfinement, l'éternel recommencement, une décision difficile attend le gouvernement cette semaine.
Reconfiné par prévention pour éviter que la situation ne devienne ingérable comme chez nos voisins britanniques. Il n'y a pas d'autres options, disent en tout cas aujourd'hui les spécialistes.
Oui, et ce même si Moderna annonce que son vaccin est bien efficace contre les variants britanniques et sud-africains.
Au sommaire également, la France qui vante son plan de relance auprès de chefs d'entreprise du monde entier.
Une nouvelle affaire d'inceste qui vise une personnalité. Après Olivier Duhamel, une plainte déposée contre le producteur Gérard Louvain.
Et puis, allô, c'est Joe. Emmanuel Macron s'est entretenu avec le nouveau président américain. Conversation chaleureuse, paraît-il. Mais Didier François nous dira que ça ne veut pas dire qu'on va retrouver les mêmes relations avec l'Amérique qu'au temps de Barack Obama.
Allô, c'est Anissa.
Je
ici
suis là.
Dans le ciel.
Yes.
Plus sec et plus froid demain. La météo.
Avec des éclaircies sur une grande partie du pays demain. La pluie va arriver dans l'après-midi par l'ouest et les températures, elles, seront beaucoup plus froides demain matin. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On a beaucoup parlé ces dernières semaines du malaise étudiant. Et bien depuis ce matin, après des mois à souffrir derrière leurs ordinateurs, à suivre des cours à distance, ceux de première année pouvaient retourner sur les bancs de la fac pour suivre les TD en demi-groupe.
À condition qu'il y ait au moins de 10 personnes. Stéphane Place a passé la journée à l'université de Bordeaux-Montaigne, où ils étaient relativement peu nombreux à assister à un vrai cours.
Je vous fais passer ceci. On va reprendre sur l'exercice.
Une petite quinzaine d'étudiants qui investissent cette salle de cours ici à l'université de Bordeaux-Montaigne. Et autant de sourires qui illuminent les visages de ces premières années, inscrits en sciences du langage, heureux comme Carla, 19 ans, de ne plus être séparés du prof par un écran d'ordinateur.
Actuellement, il n'y a qu'un seul professeur qui nous a proposé de venir en cours. C'est un soulagement parce que ça fait depuis avant les vacances d'octobre qu'on n'est pas revenu à la fac. Ça fait du bien.
Mais faire revenir ces groupes d'étudiants au sein de l'université pour qu'ils puissent assister à des cours, ce n'est vraiment pas simple, souligne Nicolas Guilliot, enseignant-chercheur.
C'est strictement impossible de le faire tel que ça a été dit. Une journée par semaine pour les étudiants, c'est impossible à organiser suivant les emplois du temps des étudiants. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire quelques aménagements, notamment ce cours de description grammaticale. En fait, ils ont peu de cours le même jour, donc on a la possibilité de les faire venir. Ça demande quand même de faire le cours à distance en même temps. Donc sachez que je dois me trimballer mon ordinateur et tout ça. Donc c'est loin d'être pratique, mais on peut le mettre en place de façon ponctuelle. On essaie de faire plus sur les L1, mais en fait, la réalité, c'est que les L2 et les L3 ont les mêmes besoins.
Au-delà des annonces de l'exécutif, organiser le retour des étudiants demeure un véritable casse-tête, insistent les enseignants, avec en plus la menace désormais d'un troisième confinement.
Le reportage de Stéphane Place sur le campus de Bordeaux-Montaigne.
Oui, la perspective d'un troisième confinement, justement, semble désormais inéluctable. Quand, comment et pour combien de temps, le gouvernement étudie à la loupe tous les chiffres et rencontre tous les spécialistes.
Et on voyait dans le journal de 18h combien il est compliqué de dire aujourd'hui l'option qui sera choisie, car les choses peuvent encore évoluer d'ici le prochain Conseil de défense, mercredi. On n'a pas encore la certitude qu'Emmanuel Macron prenne bien la parole d'ici la fin de la semaine.
Et le gouvernement sait en tout cas qu'il ne doit pas perdre de temps, car il a devant lui l'exemple de la Grande-Bretagne.
Les Britanniques, eux, sont confinés depuis le 20 décembre, confinement qui n'a malheureusement pas stoppé la progression du fameux variant britannique, Théo Manval. Et c'est ça qui inquiète énormément la France et qui incite de nombreux scientifiques à réclamer un reconfinement chez nous sans attendre.
Et oui, parce qu'après, disent-ils, il sera trop tard. Le reconfinement outre-Manche, on le voit, n'a pas permis de faire redescendre assez vite le taux de reproduction du virus, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées par un malade. Il est encore une fois et demie plus élevé au Royaume-Uni qu'il ne l'était en France au même stade lors du deuxième confinement. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il suffit d'être exposé à une moindre quantité de ce variant dans l'air pour être contaminé. C'est ça qui le rend plus contagieux et qui fait que même au sein d'un groupe confiné, comme une famille par exemple, il continue de se propager. C'est ce qu'explique le professeur Philippe Frogel, généticien à l'hôpital de Lille.
Et donc ce qui veut dire qu'au lieu d'être 1m50, il faut être 2m50. Au lieu de mettre des masques en tissu, il faut mettre des masques plus efficaces. Et en fait, il faut garder quasiment toujours son masque, même en famille. Donc c'est très, très, très difficile avec la variante anglaise de vraiment se protéger. En d'autres termes, en France, si on veut s'en sortir, il faut confiner tout de suite, avant que ce virus soit partout en France.
Un confinement qui serait donc en quelque sorte préventif avant que ce variant ne fasse vraiment flamber les chiffres. C'est toute la difficulté dans cette prise de décision politique dont on ne sait pas vraiment si elle sera communiquée d'ici à la fin fin de la semaine. Les chiffres qui se maintiennent, il faut quand même le rappeler, en tout cas sur une tendance en légère hausse depuis bientôt un mois maintenant.
Merci beaucoup Théo Manval. Dans ce contexte, malgré tout, des nouvelles rassurantes du côté du laboratoire Moderna. Il annonce que son vaccin est efficace aussi contre les variants britanniques, justement, et sud-africains. Une bonne nouvelle, certes, mais attention quand même, nous dit ce soir Jean-Daniel Lelièvre, il est chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Henri Mondor.
On a des résultats qui sont plutôt rassurants. Pour autant, on voit quand même une petite baisse d'efficacité de la réponse immunitaire contre le variant sud-africain, même si Moderna nous dit que ce n'est pas complet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces variants actuels, peut-être, ne sont pas inquiétants en termes de réponse immunitaire, mais là, on voit bien, ça va être une course dans les mois à venir pour que d'autres variants ne surviennent pas et qu'eux posent un problème plus important que les variants actuels.
Le chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Henri Mondor à Paris, joint pour Europe 1 par Anne Le Gall. Et si Moderna se félicite d'une bonne nouvelle, l'Institut Pasteur, lui, décide d'arrêter les travaux sur l'un de ses vaccins.
Oui, celui qui utilisait comme base le vaccin contre la rougeole et qui finalement n'a pas été jugé suffisamment efficace.
Pasteur qui prévoit en revanche de continuer à travailler sur deux autres vaccins, l'un administrable par voie nasale, l'autre est un candidat vaccin à ADN.
Il est 19h06, à suivre dans votre journal, une centaine de chefs d'entreprise du monde entier virtuellement réunis pour ce qui devait être initialement la quatrième édition du sommet Choose France. Objectif Isabelle, convaincre de l'attractivité de la France.
Oui, même si cette année, il est surtout question, Carole Ferry, de vendre notre plan de relance aux investisseurs étrangers.
Oui, c'est extrêmement important parce que tous les grands groupes préparent en ce moment le monde d'après. Et forcément, ils regardent quels sont les plans de relance des différents pays pour voir où il sera le plus intéressant d'investir. C'est pour ça que même si l'événement traditionnel de Choose France à Versailles a été reporté, Emmanuel Macron tenait à marquer le coup pour jouer les VRP du plan de relance Made in France à 100 milliards d'euros. Parmi les patrons présents, vous aviez Nestlé, Siemens, Ericsson, Snapchat, Ferrero ou encore Solvay. C'est en anglais que le président leur a promis de continuer à réformer le pays et à mener une politique pro-business. Même si les investissements étrangers ne sont plus aussi nombreux qu'avant crise, nous restons tout de même en bonne place, a tenu à rassurer par ailleurs le ministre du Commerce extérieur, Franck Riester. Il était l'invité de La France Bouge ce midi sur Europe 1.
Il reste une bonne dynamique d'investissement malgré la crise. Le volume global est en baisse, mais beaucoup moins que dans d'autres pays, à commencer par la Grande-Bretagne ou l'Allemagne.
Et le sommet en présentiel à Versailles devrait tout de même avoir lieu cet été, a priori fin juin, si les conditions sanitaires, bien sûr, le permettent.
Carole Ferry du service Écho d'Europe 1.
Europe 1, Julien Bugier.
Vous restez avec nous dans quelques secondes, la suite du journal 19h08. Une nouvelle affaire d'inceste mettant en cause une personnalité révélée au grand jour. On vous en parle.
Et puis les coulisses du coup de fil hier soir entre Emmanuel Macron et Joe Biden.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Avec la suite du journal 19h09, Isabelle Millet, et on parle de cette nouvelle affaire d'inceste donc dans le sillage de l'affaire Duhamel, qui met en cause une personnalité publique, c'est le producteur de télévision Gérard Louvain.
Gérard Louvain qui fait l'objet d'une plainte déposée par son neveu pour complicité de viol, Marion Dubreuil.
Oui, il n'avait que 10 ans, dit-il, quand les agressions ont commencé. Il en a aujourd'hui 48 et il accuse le mari de son oncle de viol régulier pendant 4 ans. Cela se passait chez le couple, alors que Gérard Louvain était présent. Ce n'est pas la première fois que son neveu dénonce ces faits. En 2014, il avait témoigné dans une enquête pour inceste concernant à l'origine le fils adoptif du producteur. La procédure avait été classée sans suite en 2016 pour cause de prescription, insupportable d'après son avocat Pierre de Buisson.
Il a attendu un pardon, il a attendu des excuses qui ne sont jamais intervenues et pour lui, ce dépôt de plainte avait d'abord un objectif symbolique, pouvoir verbaliser, exprimer sa souffrance et se voir surtout reconnaître un statut de victime. Il y a un parallèle évident avec l'affaire Duhamel, puisqu'une enquête avait été ouverte, qui avait été classée non pas sur la base de l'absence d'éléments de preuve, mais pour des raisons purement procédurales, pour des raisons de prescription.
Le parquet de Paris va donc vérifier si les faits dénoncés dans cette plainte sont les mêmes que ceux qui avaient donné lieu à un classement sans suite et s'il n'y a pas d'autres victimes qui ne sont pas couvertes par la prescription. Le couple de producteurs, quant à lui, nie ses accusations d'inceste et dénonce un chantage.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
Il ne manquait plus que la signature. C'est donc chose faite. La Grèce a signé un contrat pour l'achat de 18 avions de combat Rafale à la France.
Dont 12 d'occasion, montant de la transaction 2,5 milliards d'euros. Et notez que le PDG de Dassault Aviation, Éric Trappier, sera demain à 8h15 l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1.
Vladimir Poutine se défend, lui, d'être le propriétaire d'un immense palais sur les bords de la mer Noire. Information qui avait été relayée, souvenez-vous, par les proches de l'opposant Alexei Navalny,
oui,
emprisonné.
La vidéo a déjà fait le tour du monde. Elle a été vue plus de 86 millions de fois. Une déclaration, en tout cas, du président russe qui intervient deux jours après de nouvelles manifestations d'une ampleur inédite organisée pour demander la libération de Navalny. Plus de 2500 personnes ont été arrêtées.
Aux États-Unis, un pas de plus vers un procès en destitution de Donald Trump. Moins d'une semaine après avoir quitté la Maison-Blanche, les démocrates remettent ce soir l'acte d'accusation qui le vise après les violences du Capitole. Joe Biden, lui, a téléphoné hier soir à Emmanuel Macron. Premier échange entre les deux hommes depuis l'élection. Au programme, un tour d'horizon des principaux dossiers diplomatiques.
Échange manifestement courtois et chaleureux. Et on en parle ce soir avec notre spécialiste des affaires internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Les deux chefs d'État, en tout cas, ont publiquement affiché une grande convergence de vues.
Alors effectivement, ce sont leurs thèmes. Et nul doute qu'il a été choisi avec le plus grand soin pour justement renforcer l'image d'un retour à des relations de travail plus apaisées entre la France et les États-Unis. Et de manière plus générale d'ailleurs, entre Washington et ses plus proches alliés, puisqu'il a d'abord appelé ses deux voisins, canadiens et mexicains, pour pacifier leurs relations commerciales et puis fluidifier le flux de migration. Il s'est ensuite entretenu avec le Premier ministre britannique afin d'apaiser quelques tensions avec Boris Johnson, qu'il avait traité de clone de Donald Trump au cours de sa campagne. Et enfin, il a annoncé à Emmanuel Macron son intention de réadhérer à l'accord de Paris sur le climat et de relancer au plus vite les négociations sur l'arrêt du programme nucléaire iranien. Car ce à quoi s'attache Joe Biden depuis son investiture, c'est de faire la démonstration par l'exemple que la page du Trumpisme est définitivement tournée, qui est terminée. La politique des coups de sang et des décisions à l'emporte-pièce de son prédécesseur. Alors, que ce soit sur le plan intérieur, on l'a vu, dès sa prise de possession du bureau ovale à la Maison-Blanche, signer une série de décrets pour abroger les mesures les plus controversées du mandat de Donald Trump, ou alors donc que ce soit sur le plan international, le sens de ses consultations téléphoniques avec ses principaux partenaires, c'est de démontrer que sous sa présidence, eh bien, l'Amérique respectera à nouveau sa parole, ses engagements diplomatiques et militaires.
Est-ce que ce sera pour autant un retour total à la politique qui avait cours sous Barack Obama ?
Alors, bien entendu, non. Les rapports de force ont évolué, les situations sur le terrain ont changé. L'administration Biden va donc réévaluer l'ensemble des engagements américains. Et comme d'habitude, le diable se cachera dans les détails de leur mise en œuvre que l'on ne connaît pas, puisque les équipes qui sont chargées d'élaborer cette politique sont encore en train de se mettre en place. Donc Emmanuel Macron le sait parfaitement, et au-delà de l'aspect courtois donc, de ce premier échange, il a surtout cherché à s'assurer que le président américain avait bien compris quels étaient les intérêts de la France et ses attentes en termes de coopération, particulièrement sur les interventions au Sahel contre le terrorisme, au Sahel et au Levant.
Merci mon cher Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h. Merci Isabelle, on vous retrouve demain dans le 18-20 Europe Soir.